chapitre 19. Cet enthousiasme dura plusieurs jours. Pendant cette période d'exaltation, je ne songeais pas un instant à en tirer des artifices littéraires, ni à rechercher, de caractère artiste, des sensations nouvelles et violentes que j'éprouvais en mon âme. J'en jouissais inintellectuellement et complètement, comme le bœuf jouit de l'herbe vernale où il enfouit ses fanons. L'image de Lucien elle-même s'abolissait, et l'étoile de l'atelier, si désespérante, se recouvrait d'un voile d'espoir. Dans le cénacle du petit café, j'avais entendu les jeunes poètes célébrer l'amour des grandes courtisanes et des princesses. On n'y parlait que d'étoffes d'or, de plis de brocart et de chrysophrases. On n'y évoquait que des figures altières et voluptueuses, irradiant, sur les décors royaux et les fonds de vitrail, leur chair glorieuse. Pour eux, l'amour n'était qu'un paysage somptueux avec des lacs, des gondoles, des armures, des donjons, des escaliers de marbre où glissent les traînes froufroutantes. Mon bonheur à moi était que celle que j'aimais fût humble et pauvre. Elle était jolie, du moins elle me semblait telle, mais je l'aurais voulu laide pour l'aimer davantage. Mes journées s'écoulèrent presque tout entière dans cette loge sombre et mal tenue, que mon imagination surexcitée transformait en un incomparable palais. Lorsque les locataires, les visiteurs, les fournisseurs venaient interrompre nos extases, je me cachais, le cœur battant, dans l'étroite pièce voisine qui servait de cuisine. Là, sur un petit fourneau de fonte graisseuse, bouillait toujours le miroton familial. Sur une planche, dans une assiette ébréchée, saignait un morceau de rate et des torchons noirs pendaient partout. Je ne voyais pas ces vulgaires détails qui eussent déconcerté les jeunes poètes. La présence de Julia anoblissait toutes ces choses, d'une intimité si misérable, et cette cuisine sordide m'était plus mystérieuse qu'une chapelle. De cette chapelle où les émanations obstinées des fritures remplaçaient l'encens. J'observais Julia répondant aux visiteurs, et ses mèches blondes, les coquets sourires de sa bouche, l'inflexion charmante de sa taille longue, ses doigts appuyés au bouton de la porte, m'emplissaient de rêves indicibles et de surnaturel amour. Oh, que j'ai aimé son triste corsage de taffetas déchiré, et les passementeries foncées qui l'ornaient, et cette nuque courbée si touchante, malgré le trait de... comment dirais-je, le trait de crasse, pauvre Julia, qui la cernait à hauteur du col. Elle n'était pas très soignée, non, mais elle était si douce, si bonne, si tendre. Ce qui me gênait, c'est qu'auprès d'elle, je ne savais quoi dire. Mon cœur était plein de choses inexprimables. Il n'y avait pas de mots pour décrire ce que je ressentais. Aussi, la plupart du temps, nous restions silencieux. Mais qu'il était éloquent ce silence, servi par le muet et ardent langage de nos regards. Ce n'est que dans l'atelier, seul, que je retrouvais la possession de moi-même et la liberté de mes facultés déclamatoires. Je parlais à Julia, absente, avec une abondance extraordinaire de phrases passionnées. Je me traînais à ses genoux, j'enlaçais sa taille, et de supplications en sanglots, d'ivresse verbale en hardiesse de gestes, nous en arrivions à confondre nos baisers et à nous envoler tous les deux vers des paradis inconnus et merveilleux. De ces supercheries de l'amour, où je remplissais les deux rôles, je revenais toujours un peu triste et dégoûté. Il y avait, succédant à l'exaltation, un moment de dépression terrible, où l'idole m'apparaissait découronnée de son idéal, où je ressentais vivement le ridicule de ma pantomime solitaire. « Si Lucien m'avait vu, me disais-je alors, s'il savait que je passe mes journées dans cette loge !» et la honte me montait au visage, en ondes rouges et brûlantes. Mais il me suffisait de redescendre, d'apercevoir Julia à travers les rideaux de la loge pour reconquérir tout mon enthousiasme et repartir dans le bleu des rêves. Nos conversations, coupées de longs silences, roulaient presque exclusivement sur les romans que j'avais donnés à Julia. Julia me racontait toutes les péripéties de ces drames que j'ignorais. Elle mettait à ses récits une passion, un décousu, une telle abjection d'esprit, une telle vulgarité de sentimentalisme, que dans toutes les autres circonstances, cela m'eût paru d'un comique souverain et d'un irrésistible ridicule. Je ne songeais pas à rire à ce nouvel épisode du « Roman chez la portière ». Au contraire, mon émotion était, tout naturellement, celle de Julia. Nous avions les mêmes battements de cœur, les mêmes soulèvements d'admiration, les mêmes indignations, les mêmes immenses pitiés. Je me souviens d'une comtesse adultère qui nous arracha bien des larmes. Un après-midi, Julia me narrait languissamment une scène palpitante. Il s'agissait encore d'une comtesse et de son amant. La scène était passionnée et délicate à dire. Julia prenait des circonlocutions embarrassées. Arrivée au moment définitif, elle se pencha sur sa chaise, allongea ses mains sur sa robe et se tut tout à coup. « Eh bien, Julia, pourquoi ne continuez-vous pas ? » demandai-je. « Parce que je ne peux pas dire ces choses-là. Vous ne m'aimeriez plus. »« Oh, Julia, je vous en prie, continuez. » Moi, ne plus vous aimer, c'est de la folie. Si, si, si. Julia, ma petite Julia, je t'en prie. Non, non, non. Elle avait la bouche ouverte, les lèvres frémissantes. Ses narines dilatées semblaient aspirer d'étranges parfums, et ses yeux s'emplissaient de flammes courtes et vives. Je lui pris la main, je la serrai. Julia, répétai-je d'une voix profonde et grave. Elle ne répondit pas, mais sa main serra ma main. « Julia !» criai-je d'une voix rauque. Et, comme sous le coup d'une brusque ivresse, tout tourna, tout chancela autour de moi. Sans que je résonnasse mes mouvements, ma main, délaissant sa main, s'égara sur sa chair en un geste violateur. Julia jeta un cri, et se défendant et me repoussant, elle couvrit ensuite son visage de ses mains. « Oh, oh, oh !» fit-elle. J'étais demeuré interdit de ma hardiesse. Je détournai la tête, et mes bras retombèrent au long de mon corps, inertes. Pourtant, je balbutiais. « Julia, je vous ai fait de la peine. « Oh !» fit-elle encore. « Julia !» « Pardonnez-moi. »« Oh !» fit-elle toujours. Je suppliais. « Julia, 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 je ne suis pas méchant. Ne pensez plus à ça. Jamais, jamais, jamais je ne vous reparlerai de ça. C'est fini, je vous jure que c'est fini. Pardonnez-moi. J'ai été fou, mais c'est fini. » J'osais alors la regarder timidement, peureusement. Elle avait toujours son visage caché dans ses mains, sa nuque penchée, sa nuque innocente où jouaient les mèches blondes, les virginales mèches blondes, me fut comme un reproche violent de ma brutalité. Et mon cœur connut toutes les délices, toutes les sublimes délices du repentir. « Donnez-moi votre main, mademoiselle Julia, » prononçai-je solennellement. « Vous n'avez plus rien à craindre de moi. »«
Est-ce bien vrai ?»
dit-elle. Je vous le jure.
C'est si vilain ce que vous avez fait, ici, chez ma mère, et le monde qui pourrait venir.
Elle découvrit son visage. Ses yeux, un peu rouges, n'exprimaient plus ni la honte, ni l'horreur, ni l'étonnement. Je fus même un peu déçue par l'air d'ironie qu'ils me marquèrent. Pourtant, elle me donna sa main, que je tins dans la mienne quelques secondes. « Au revoir, mademoiselle Julia. »«
Au revoir, monsieur. »
Et je remontai à l'atelier, l'esprit vague, ne sachant plus quel sentiment était en moi. Chapitre 20. Au milieu de ces préoccupations nouvelles, je reçus de Lucien la lettre suivante. Écluse de Portejoie. Dès que tu auras lu cette lettre, cher petit, fais un paquet de tout ce qui me reste à l'atelier, de tubes et de toiles blanches. Tu me l'adresseras au café de la Marine, Écluse de Portejoie. Un joli nom, hein, et qui rassure. Un pays admirable où l'on doit être heureux, si le nom ne ment pas, comme l'enthousiasme. Portejoie, c'est là que je suis pour l'instant, là que je vais demeurer un mois encore, peut-être plus longtemps, peut-être toujours. Car il m'a poussé dans la tête des projets considérables, et je suis dans l'attente de vertigineux événements qui te confondront s'ils arrivent. Je ne puis t'en dire davantage aujourd'hui. Contente-toi de rêver sur ce que je ne te dis point. Ne va pas t'imaginer surtout qu'il y a une femme dans cette aventure. Tu connais mes idées à ce propos. Les femmes, ah non, c'est trop inesthétique. Tu trouveras, épinglés à cette lettre, 2 billets de 100 francs. Avec cet argent, tu paieras mon terme, le mois de la concierge et le marchand de couleurs, qui te présentera sa note vers le 15. Elle est de 83 francs. Tu feras le garçon avec le reste. J'ai calculé qu'il te restera 70 centimes. Oui, oui, voilà pour les affaires sérieuses. Autre chose maintenant. Depuis que je t'ai quitté, j'ai beaucoup marché et j'ai rencontré des motifs inouïs, des paysages épatants. Un, entre autres, Mazette. Figure-toi, dans une vallée resserrée, entre des coteaux, moitié craie rose, moitié pin, et d'une merveilleuse ondulation, la Seine, très large. Parmi les eaux laiteuses, sous le ciel doux, des quantités de petites îles plantées de peupliers. De loin, à mi-côte, cela ressemble à de vagabondes cathédrales, à de gigantesques escadres, ou plutôt à des Atlantides, victorieuses de leur engloutissement séculaire et ressurgies. Des fonds noirs de fucus dans l'éclatant soleil de la vie. Oui, mais va donc rendre la majesté de ça. J'ai beaucoup peint aussi, et n'ai fait que d'innommables saloperies. Presque toutes mes toiles, je les ai crevées de rage, sauf 2 esquisses, qui ne sont pas trop mal et qui me serviront plus tard pour un grand décor que je rêve. Du moins, j'aime à me consoler avec cette illusion. En ai-je rêvé comme cela, des choses qui jamais ne se réaliseront. À propos de ces 2 esquisses, figure-toi que je rentrais avec tout mon attirail. Pour monter dans ma chambre, il faut que je traverse la grande salle du café. Il y avait là un bourgeois. Les bourgeois sont rares dans ces parages. Il y a trop d'air, trop de vent, trop de ciel pour eux. Ils ne pourraient pas vivre dans cette lumière et dans cette beauté. C'était un bourgeois d'un pays voisin. Il avait des bottes jaunes, armées d'éperons, une cravache et, peut-être, un cheval attaché à l'anneau dans la cour. Mais je n'ai pas vu le cheval. Sans penser à mal, sans nulle intention agressive, je dépose contre une chaise, la face au jour, mes toiles qui m'embarrassaient. D'abord, le bourgeois ne les vit point. Il était fort occupé à réclamer, en termes autoritaires, un vermouth qu'on tardait à lui servir. Et l'intrusion d'un personnage suspect, mal vêtu et barbouillé de peinture, comme j'étais alors, n'était pas faite pour le calmer. En même temps qu'il maugréait contre la bonne, il me dévisageait avec mépris. Tout à coup, il aperçoit, contre la chaise, les esquisses, les grands sabrages de vermillon, les tourbillonnantes virgules de jaune. Et ce fut comme s'il venait de recevoir un coup de pied au derrière. Dans une série de mouvements rapides, expressifs et simultanés, Voilà que le malheureux bourgeois, qui se remonte les épaules en avant, se renverse les chines en arrière, rentre les fesses, qu'il empoigne à deux mains, se tord la bouche, se convulse les yeux dans la plus horrible grimace que puisse inventer un singe. Puis, comme la bonne lui apportait en cette pathétique seconde son vermouth, il l'avale d'un trait et de travers, s'enroue, s'ébroue, éternue et s'enfuit les fesses serrées, de nouveau protégé contre les bottes idéales par la double cuirasse de ses mains. Pendant quelques minutes, j'ai tiré vanité de la foudroyante sincérité de ce mouvement, évidemment réflexe, et pourtant puissamment critique. Mais plus tard, seul dans ma chambre, en face de ses toiles, je me suis dit que ce bourgeois, après tout, avait raison, et que cette peinture était ignoble. Je me sens, cher petit, de plus en plus dégoûté de moi-même, à mesure que je pénètre plus profond dans la nature, dans l'inexprimable et surnaturel mystère qu'est la nature. J'éprouve combien je suis faible et impuissant devant de telles beautés. La nature, on peut encore la concevoir vaguement avec son cerveau, peut-être, mais l'exprimer avec cet outil gauche, lourd et infidèle qu'est la main, voilà qui est, je crois, au-dessus des forces humaines. Et puis, pourquoi faire? Qu'importe à la si misérable humanité que je peigne des peupliers en rouge, en jaune, en bleu ou en vert, et que je distribue tranquillement des violets et des orangers pour simuler l'eau d'un fleuve et l'impondérable éther d'un ciel, alors que dans la vie, à chaque pas, on se heurte à des monstrueuses iniquités, à d'inacceptables douleurs. Est-ce avec mon pinceau que je les détruirai? Est-ce avec mon couteau que je les guérirai? Oui, je souffre cruellement, à l'idée de plus en plus ancrée en moi, que l'art n'est peut-être qu'une duperie, une imbécile mystification. Et quelque chose de pire encore, une lâche et hypocrite désertion du devoir social. À la campagne, dans les petits villages silencieux, où l'homme est moins dense et moins caché que dans les grandes villes impersonnelles et hurlantes, on voit mieux tout ce qui pèse sur lui, tout ce qui l'écrase. On se rend compte davantage de la servitude effroyable à laquelle il est condamné. Éternel forçat. Tiens, l'autre jour, j'ai rencontré un petit vieux qui se lamentait. Et voici ce qu'il me raconta. Il réparait, un matin, le mur de sa chaumière qui borde la route. L'agent voyer vint à passer et lui dressa un procès-verbal. Il paraît, le croirais-tu, qu'on n'a pas le droit de remettre une pierre à son mur qui tombe sans y être préalablement autorisé par le préfet. Le pauvre bonhomme a dû interrompre son travail et il paiera 100 francs d'amende pour avoir commis le crime de coller contre son mur en ruine, deux truelles de mortier. Et ce qu'il était beau, derrière sa barrière, le vieux paysan, quand il me narrait ses malheurs. Et le ton fané de sa blouse bleue, un coin de ciel d'avril. Et c'est comme ça toujours. L'homme n'a pas le droit de marcher vers la joie, d'étreindre le bonheur, de penser, d'imaginer, de créer, de sentir même. C'est épouvantable quand on y réfléchit. Dès que l'homme s'éveille à la conscience, dès qu'il reconnaît qu'il a des jambes et qu'il veut marcher vers quelque part, l'État arrive et lui brise les jambes d'un coup de bâton. Mais l'homme a des bras s'il ne peut plus marcher. Il peut étreindre quelque chose. Alors l'État revient et lui brise les bras d'un coup de bâton. L'homme gît à terre. Mais il a un cerveau qui le rend toujours redoutable, car il peut penser, il peut rêver. Là, germe et fleurit l'idée de la rédemption humaine. Là, s'épanouit la fleur sublime de la révolte. Alors, l'État revient une troisième fois, fend d'un coup de maillet le crâne de l'homme et lui dit « Maintenant, tu es un bon citoyen. » Oui, j'aime les pauvres gens. Je les aime d'une tendresse immense, comme la douleur humaine. Je les aime non pas seulement parce qu'ils sont beaux de lignes et d'accent,
mais parce que toute l'infamie sociale s'avive aux apophyses de leur ossature, au calus de leurs mains, et je voudrais... Ah, je ne sais pas ce que je voudrais, mais je sens qu'il y a quelque chose de plus beau, peut-être, de plus grand que l'art. L'amour. Enfin, voilà. Tout cela ne m'empêchera pas de me remettre au travail avec acharnement. Je t'embrasse, Lucien. Post-scriptum. Dès que l'événement se sera produit, je t'écrirai. N'oublie pas le terme, la concierge et le marchand de couleurs. Tu sais combien j'ai horreur des réclamations. Je compte sur toi. Cette lettre me laissa tout triste. J'avais le cœur bien gros en achevant de la lire, car il n'y avait pas un mot pour moi, pas un mot de tendre intérêt, pas un mot de curiosité même sur ma vie. Je sentis au cœur comme une morsure de la jalousie. Et pendant une minute, il me sembla que je n'aimais plus Lucien. Chapitre 21. Le malaise, ou pour mieux dire, la sorte de déception que me causa la lettre de Lucien, dura plusieurs jours. J'en souffris beaucoup, et les réflexions que, forcément, elle me suggéra, me troublèrent fort dans mon amitié, et surtout dans la conception plus raisonnable et terre à terre qu'au fond de moi-même, et sans oser me l'avouer, je me faisais de l'art et de la vie. Sous la couche de sensibilité plus fine par laquelle j'avais cru longtemps me différencier de mes parents, je retrouvais la même infériorité intellectuelle d'où j'étais née, les mêmes tics héréditaires, la même petite âme bourgeoise et peureuse, inapte aux grandes exaltations de la pensée. Je compris mieux alors combien Lucien, avec ses visions exaspérées de toute chose, m'était dangereux, et combien il me violentait jusque dans mes propres sensations, si normales, si tranquilles. Il m'emmenait avec lui dans une voie terrible où il n'y avait pour aboutissement que le désespoir, car il y poursuivait et m'obligeait à y poursuivre avec lui d'inadmissibles chimères, à l'existence desquelles il n'était pas bien sûr de croire. Je ne voulus pas approfondir ce problème. Trop de questions, d'effrayantes questions s'y reliaient, et j'avais déjà pris le parti d'écarter de moi toutes les préoccupations gênantes, tout ce qui pouvait assombrir, d'un nuage menaçant, le calme apparent de ma vie. Un matin, que je m'étais sentie davantage délivrée des influences, en quelque sorte diaboliques, qui faisaient de mon âme l'ombre même de l'âme de Lucien, je désirais jouir de moi, jouir de la vie perçue par moi. Je résolus de passer toute une journée à flâner par les rues, à regarder les êtres et les choses, non plus à travers les affolants yeux de Lucien, mais avec les miens propres, si tant est que mes yeux m'appartinssent encore. Je descendis mes 5 étages, alerte, presque gai, les muscles excités, comme par des ondes électriques. En longeant la loge, avec une lenteur calculée, j'aperçus Julia, assise, la tête penchée sur un livre. Au-dessus d'elle, un cinéraire d'un intolérable bleu s'anémiait dans un pot, et dans un autre pot, 2 plumes de paon croisées, presque chauves, balançaient sur la cheminée, entre 2 photographies, leurs ocelles verdâtres, enduits de poussière. En ce décor, Julia me sembla très jaune de teint, très flétrie de visage, avec un cou trop long, qui lui donnait une attitude et une expression de ridicule oiseau. Et comme son corsage de mince étoffe fanée, élimée, raccommodée, s'accusait hideusement pauvre, comme il éloignait l'idée de plasticité glorieuse. Au bruit de mes pas, elle leva vers moi son front triste, où tristement s'ébouriffaient 2 mèches de cheveux ternes, de cheveux malades.
Je la saluai d'un air dégagé et protecteur, n'étant point, ce matin-là, d'humeur à m'apitoyer sur les chloroses des concierges. Au contraire, il ne m'eût pas déplu de la plaisanter cruellement sur sa maigreur, sur les poches vides que son corsage creusait à hauteur du corset, sur la dureté anguleuse de son cou, et sur toutes les imperfections physiques que, dans cette seconde de vengeance basse et de vil dépit, j'avais un odieux plaisir à découvrir et à détailler, tel un amant dégrisé après l'acte de la possession. Sans doute, elle vit tout ce qui s'agitait de mauvais dans mon âme, et son regard s'élargit, comme pour m'envelopper tout entier d'un halo de tendresse. Ensuite, elle quitta sa chaise, referma son livre, entrebâilla la porte, et dans un mélancolique sourire, elle me dit un gentil bonjour, un gentil et tendre bonjour, à quoi je crus devoir répondre par un bonjour bref et froid. Elle soupira. « Ah, comme vous avez l'air méchant aujourd'hui !» Très digne, je répliquai. « Je ne suis pas méchant, mademoiselle, je suis pressé. » « Alors, vous n'entrez pas une toute petite minute ?» Et elle s'effaça pour me laisser passer. « Non, vraiment, mademoiselle, je n'entre pas. Je suis très pressée. » Mais en disant « Non, je n'entre pas », j'avais poussé plus encore la porte et j'étais entrée dans la loge. Julia Minauda. « Ah, c'est gentil. J'avais peur que vous ne fussiez fâchée. » « Et pourquoi serais-je fâchée ?» « Je ne suis pas fâchée, je suis pressée. C'est une autre affaire, il me semble. »« Eh bien, asseyez-vous une toute petite minute. » Elle eut, en me disant cela, un petit rire qui découvrit ses dents un peu gâtées, çà et là, enduites de tartre noirâtre. Comme toujours, la cuisine était ouverte, sur le fourneau chantait le miroton familial. L'assiette au chat saignait sur la planche, une odeur d'oignon circulait dans l'air. Et dans le fond de la pièce, le lit reposait, magistralement paré de la courte pointe en fausse guipure qui moulait le traversin de son transparent rose et rebondissait sur l'édredon en damier ajouré et ventru. Julia dit « Ah, pourquoi êtes-vous si méchant ? Et pourquoi êtes-vous si beau aujourd'hui ? Car vous êtes plus beau qu'à l'ordinaire. » Je m'assis près d'elle, sur une chaise basse, dans un coin sombre, et toute ma raideur, toute ma dignité s'évanouirent, et je soupirai en pressant la main de mon ami, le cœur plein de repentir et de tendre pitié. Ah, Julia, Julia ! J'accentuai la caresse et promenai nos deux mains unies, sur elle et sur moi. Julia ne se défendit pas. Elle dit seulement « « Soyez sage, il faut être sage, sans quoi je penserais que vous ne m'aimez pas. » À une caresse plus audacieuse et plus précise, elle répondit « Non, non, pas ça, ne me demandez pas ça. » Et d'une voix plus basse, tandis que sa chair commençait à frémir, « Songez donc, si on venait, et puis, vous, un homme, ça n'a pas d'importance, mais moi, voyez donc, s'il m'arrivait un malheur. » Qu'est-ce que je deviendrais ? Soyez sage, je vous en prie, je ne veux pas. » Tout en protestant, elle s'offrait aux plus délicates investigations sur sa personne. Même, elle mêla ses caresses aux miennes, des caresses plus expertes que les miennes. Et tout à coup, sa tête roula sur ma poitrine. « Tu m'affoles !» dit-elle. Il y avait de l'enthousiasme dans ses yeux, dans ses lèvres, dans le ton de sa voix haletante, que l'approche de la volupté rendait plus rauque, et en quelque sorte déchirée par des sonorités sourdes de bête. Puis elle revint bientôt à des vagissements, de petits vagissements plaintifs d'enfant, et à plusieurs reprises, la chair détendue, la tête molle, elle balbutia « Maman, maman !» Je goûtais un bonheur incomplet qui me laissa tout triste et un peu hébété. Quant à Julia, rougissante, la tête cachée dans ses mains,
Elle pleura longtemps, ne cessant de répéter « c'est mal, et maintenant vous n'allez plus m'aimer, et maintenant je vais être toute seule. »
Je ne sus pas trouver, pour la rassurer, un seul mot de tendresse. Il me semblait que j'eusse perdu l'usage de la parole. Il me semblait aussi que tout venait de mourir en moi, dans ce geste désillusionnant de l'amour.